Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la raison. Troisième partie. Première section. Grand 7. La transition graduelle qui fait passer la croyance ecclésiastique à la souveraineté de la croyance religieuse pure est l'approche du règne de Dieu. La marque de l'Église véritable est son universalité. Et ce caractère se reconnaît à sa nécessité et à son incapacité d'avoir un autre mode de détermination. Or, la foi historique, basée sur la révélation, c'est-à-dire sur l'expérience, n'a pas de portée générale et ne peut atteindre que ceux auxquels est parvenue l'histoire sur laquelle elle s'appuie. Ainsi du reste que toute la connaissance empirique. Elle contient, non pas la conscience que son objet doit être ainsi, et non autrement, mais seulement qu'il est ainsi. Par là même, elle implique aussi la conscience de sa contingence. Donc il se peut qu'elle suffise à la foi ecclésiastique, dont il peut y avoir plusieurs variétés. Il n'y a que la foi religieuse pure, entièrement fondée sur la raison, qu'on puisse reconnaître comme nécessaire et comme étant, par conséquent, la seule qui caractérise l'Église véritable. Mais bien qu'une foi historique, conformément à l'inévitable limitation de la raison humaine, affecte la religion pure comme moyen et comme véhicule, en ayant conscience de n'être que cela, et que cette foi historique, en tant que croyance d'Église, comporte un principe qui la rapproche un peu plus, tous les jours, de la foi religieuse pure, pour arriver à rendre inutile ce véhicule, l'Église, qui cède de cette foi, peut toujours être dite l'Église véritable. Mais comme il n'est jamais possible aux thèses de foi historique d'être à l'abri de tout conflit, on ne peut la nommer qu'Église militante, tout en ayant la perspective qu'elle finira bien par être l'Église immuable et universelle, l'union de tous, l'Église triomphante. On appelle sanctifiante une foi qui comporte pour chaque homme en particulier la capacité morale, la dignité, d'être éternellement heureux. La foi sanctifiante doit donc être aussi la même pour tous. Et malgré la variété des croyances ecclésiastiques, elle peut se trouver dans chacune de celles où elle est pratique relativement à son but, qui est la foi religieuse pure. La foi particulière à une religion de culte est au contraire une foi d'esclave et de mercenaire, et elle ne peut pas être regardée comme sanctifiante, parce qu'elle n'est point morale. Pour qu'une foi soit sanctifiante, en effet, il est nécessaire qu'elle soit libre et qu'elle soit fondée sur de purs sentiments du cœur. L'une croit être agréable à Dieu par des actes, par les exercices du culte, qui, bien que pénibles, n'ont pas cependant en soi de valeur morale et ne sont par suite autre chose que des actes imposés par la crainte ou par l'espérance, et que les méchants eux-mêmes peuvent accomplir, tandis que l'autre, pour y réussir, suppose la nécessité d'une intention moralement bonne. La croyance sanctifiante impose deux conditions à notre espoir de la félicité. L'une est relative à ce que nous ne saurions faire nous-mêmes, et il nous est impossible de faire que des actes accomplis par nous soient transformés légalement, aux yeux d'un divin juge, en des actes non accomplis. L'autre a rapport à ce que nous pouvons et devons nous-mêmes accomplir. Et nous pouvons commencer une vie nouvelle qui sera conforme à notre devoir. La première, c'est la croyance à une satisfaction. Acquittement de notre dette, libération, réconciliation avec Dieu. La seconde, c'est la croyance à la possibilité de devenir agréables à Dieu par la bonne conduite que nous aurons à l'avenir. Ces deux conditions ne constituent qu'une croyance, et il est nécessaire qu'elles aillent toujours ensemble. Mais on ne peut bien voir la nécessité d'une connexion qu'en admettant qu'une des deux choses liées peut être dérivée de l'autre, et par suite, que la croyance à l'absolution de nos fautes a pour effet notre bonne conduite, selon la loi des causes efficientes au point de vue moral, ou que, selon la même loi, cette croyance est, au contraire, le résultat de l'intention sincère et agissante que nous avons de nous bien conduire toujours. Or, il se montre ici une antinomie remarquable de la raison humaine avec elle-même. Et pour la résoudre, ou du moins, si la solution en est impossible, pour l'écarter, il n'y a qu'un moyen. C'est de se demander s'il faut qu'une foi historique d'Église se surajoute toujours comme élément essentiel de la croyance sanctifiante, à la fois religieuse pure, ou s'il se peut qu'étant un simple véhicule, cette foi historique arrive à se résoudre un jour, quelque lointain qu'on le suppose, dans la foi religieuse pure. Petit 1. Si nous admettons qu'il y a eu une satisfaction donnée pour les péchés des hommes, nous concevons certes que tout pécheur soit désireux de se la rapporter, et que s'il n'avait pour cela qu'à croire, ou ce qui revient au même qu'à déclarer « je veux qu'elle ait aussi été donnée pour moi », nul n'hésiterait un moment. Mais on ne voit pas bien comment un homme raisonnable qui a conscience d'être fautif pourra sérieusement admettre qu'il est simplement à croire au message d'une satisfaction donnée pour lui et, comme disent les juristes, à l'accepter pour considérer sa faute comme effacée et si bien extirpée jusque dans ses racines qu'une bonne conduite, sans que jusqu'à ce jour il se soit donné la moindre peine pour y atteindre, doivent immanquablement être la conséquence de cette foi et de l'acceptation du bienfait qui lui est offert. C'est une foi que nul homme sérieux ne saurait laisser naître en lui, quelque penchant quel amour de soi a changé en espoir le simple souhait d'un bien en vue duquel on ne fait rien ou même l'on ne peut rien faire, comme si, attiré par le simple désir, ce qui est l'objet de ce bien pouvait arriver de lui-même. Le seul moyen qui permettrait à l'homme de s'aventurer jusque-là serait de regarder cette foi elle-même comme venue célestement en lui, et par suite comme une chose dont il n'a aucun compte à rendre à sa raison. Mais, s'il ne le peut pas, ou s'il est encore trop sincère pour feindre une pareille confiance, à titre simplement de moyen d'insinuation, malgré tout son respect pour cette satisfaction infinie, malgré tout son désir d'en être aussi le bénéficiaire, il ne pourra pas s'empêcher de la regarder seulement comme conditionnée, c'est-à-dire de penser qu'il doit, autant qu'il est en lui, améliorer sa conduite avant d'avoir le moindre motif d'espérer qu'un mérite si élevé puisse devenir son partage. Par conséquent, si la connaissance historique d'une satisfaction donnée fait partie de la foi d'Église, tandis que la bonne conduite est une condition qui dépend de la foi morale pure, cette dernière foi devra précéder l'autre. Petit 2. Mais si l'homme est foncièrement corrompu Comment peut-il se croire par lui-même capable, de quelque façon qu'il s'y prenne, de se transformer en homme nouveau et de devenir agréable à Dieu, s'il a conscience des fautes dont il s'est rendu jusqu'ici coupable, s'il est encore en la puissance du principe mauvais, et s'il ne trouve pas en lui la force suffisante pour mieux se conduire désormais. S'il lui est impossible de considérer l'injustice, qu'il a lui-même excitée contre lui, comme apaisée par la satisfaction d'un autre, s'il ne peut point s'envisager lui-même comme régénéré, peut-on dire, par cette foi, de manière à pouvoir entreprendre une vie nouvelle, qui, dans ce cas, serait la conséquence de son union avec le principe du bien, sur quoi veut-il fonder son espérance de devenir un homme agréable à Dieu? Par conséquent, la foi a un mérite qui n'est pas le sien propre, et par lequel il est réconcilié avec Dieu, doit précéder en lui toute aspiration à de bonnes œuvres, ce qui est en contradiction avec la proposition précédente. Nous ne saurions aplanir ce conflit par la vue de la détermination causale de la liberté des êtres humains, c'est-à-dire par la vue des causes qui font qu'un homme devient bon ou mauvais, autrement dit spéculativement, car c'est une question qui dépasse tout le pouvoir de spéculation de notre raison. Mais pour la pratique, où l'on se demande non ce qui est physiquement premier, mais ce qui l'est moralement pour l'usage du libre arbitre, c'est-à-dire où l'on veut savoir si nous devons partir de la foi à ce que Dieu a fait en notre faveur, ou bien de ce que nous avons à faire pour devenir dignes de ses bienfaits, de quelque nature qu'il soit, la réponse n'est pas douteuse. C'est de notre devoir que nous devons partir. En effet, la première condition de la sanctification, c'est-à-dire la foi, a une satisfaction par procurateur, ne nous est nécessaire que pour le concept théorique. Nous ne pouvons pas, autrement, nous rendre concevable l'effacement de nos péchés. La nécessité du second principe est pratique, au contraire, et purement morale. À coup sûr, l'unique moyen qui puisse nous faire espérer de nous approprier les mérites d'une satisfaction étrangère et de devenir de la sorte participant de la béatitude est de nous en rendre dignes par nos efforts dans l'accomplissement de tous les devoirs humains, accomplissement qui doit être l'œuvre de notre propre application et ne pas consister lui-même en une influence étrangère où nous demeurerions passifs. Puisqu'en effet, c'est là un commandement inconditionné, il est aussi nécessaire que l'homme en fasse, à titre de maxime, la base de sa foi. C'est-à-dire qu'il parte de l'amélioration de sa vie comme de la condition suprême seule, susceptible de l'amener à une croyance sanctifiante. La foi d'Église étant une foi historique, commence avec raison par le premier principe. Mais comme elle n'est que le véhicule de la foi religieuse pure, où se trouve la fin à proprement parler, il faut que ce qui, dans cette dernière en tant que croyance pratique, joue le rôle de condition, la maxime de l'action constitue le point de départ et que la maxime de la science ou de la croyance spéculative se borne à confirmer et à couronner la première. On peut là-dessus remarquer encore que le premier principe fait de la foi, à une satisfaction par procurateur, un devoir pour l'homme, tandis qu'il lui attribuerait comme une grâce La croyance à la bonne conduite. Œuvre d'une influence supérieure. D'après le second principe, c'est le contraire. Pour lui, c'est la bonne conduite, condition suprême de la grâce, qui est un devoir inconditionné, tandis que la satisfaction d'en haut est simplement une affaire de grâce. Au premier principe, on reproche, souvent non sans raison, d'ouvrir la porte à la superstition des votes qui s'est alliée à la religion une vie coupable. Au second, de favoriser l'impiété naturaliste qui joint une conduite par ailleurs peut-être tout exemplaire à l'indifférence ou même à l'hostilité vis-à-vis de toute révélation. Mais c'est là trancher la difficulté par une maxime pratique au lieu de la résoudre spéculativement. Chose d'ailleurs permise incontestablement en matière de religion. Les remarques suivantes peuvent cependant servir à calmer ces exigences théoriques. La foi vive dans le modèle de l'humanité agréable à Dieu, la foi dans le Fils de Dieu, se rapporte, en soi-même, à une idée morale de la raison, en tant que cette idée nous sert non seulement de règle, mais encore de mobile, et par conséquent, c'est tout un de prendre pour point de départ cette foi, qui est rationnelle, ou le principe de la bonne conduite. Au contraire, la foi en ce même modèle dans le monde phénoménal, la foi en l'homme Dieu, étant une foi empirique, historique, ne se confond pas avec le principe de la bonne conduite, principe qui doit être tout à fait rationnel. Et ce serait tout autre chose que de vouloir prendre cette croyance comme point de départ et en dériver la bonne conduite. Il y aurait alors une contradiction entre les deux thèses énoncées. Seulement dans l'apparition phénoménale de l'homme-Dieu, ce qui constitue à vrai dire l'objet de la foi sanctifiante, ce n'est pas ce qui est accessible à nos sens, ni ce que nous pouvons connaître de lui par l'expérience, mais bien le modèle idéal déposé dans notre raison et que nous donnons pour support à cette personne phénoménale. Parce que, autant qu'on peut en juger d'après son exemple, elle est trouvée conforme à ce modèle. Et cette foi est ainsi identique avec le principe d'une conduite agréable à Dieu. On n'a donc pas ici deux principes en soi différents et qui nous conduiraient chacun dans une voie opposée à celle de l'autre, mais une seule et même idée pratique qui nous sert de point de départ, d'abord en tant qu'elle nous représente le modèle idéal comme existant en Dieu et procédant de Dieu, ensuite en tant qu'elle nous le représente comme existant en nous, mais chaque fois parce qu'elle nous le représente comme la règle de notre conduite. Et l'antinomie n'est donc qu'apparente, puisque c'est seulement par un malentendu que la même idée pratique, envisagée sous différents rapports, est regardée comme deux principes distincts. Mais si l'on voulait faire de la foi historique à la réalité d'un homme-Dieu qui s'est manifesté au monde, la condition de l'unique foi sanctifiante, il y aurait alors incontestablement deux principes tout différents, l'un empirique, l'autre rationnel. Et sur ces principes se grefferait, que l'on dût partir de l'un ou de l'autre, un conflit véritable des maximes, sans qu'aucune raison pût jamais l'aplanir. La proposition, il faut croire qu'il a existé autrefois un homme dont la sainteté et dont les mérites ont été si grands qu'il a satisfait à la fois pour lui et pour tous les autres, accomplissant tout son devoir et suppléant aux manquements relatifs à notre devoir, chose dont la raison ne nous dit rien, pour espérer qu'il nous est possible à nous-mêmes, en nous conduisant bien, d'être sanctifiés, mais seulement en vertu de cette croyance, Cette proposition énonce toute autre chose que la suivante. Il faut s'appliquer de toutes ses forces à faire naître en soi la sainte intention d'une vie agréable à Dieu, afin de pouvoir croire que l'amour qu'il a pour l'humanité, amour dont la raison nous assure déjà, si cette humanité s'efforce de tout son pouvoir d'exécuter les volontés divines, suppléera, par égard pour la bonne intention, aux imperfections du fait, de quelque manière que ce puisse être. Le principe empirique n'est pas à la discrétion de tout homme, même de l'ignorant. L'histoire nous montre que cette lutte entre deux principes de foi a existé dans toutes les formes de religion. Toutes les religions ont eu en effet des expiations, quelles qu'elles fussent. Mais la disposition morale inhérente à chacun des hommes ne manquait pas, de son côté, de faire entendre ses réclamations. Cependant, de tout temps, les prêtres se sont plaints, plus que les moralistes. Les premiers tonnaient à grands cris, en sommant les autorités de remédier au désordre, contre l'abandon du culte divin établi pour réconcilier le peuple avec le ciel et détourner les calamités de l'État, tandis que les seconds déploraient le déclin des mœurs qu'ils attribuaient grandement aux moyens que les prêtres employaient pour purifier les hommes du péché et qui permettaient à chacun de se réconcilier aisément avec la divinité malgré les plus grossiers des vices. Effectivement, dès que l'on admet que l'on a sous la main un fonds inépuisable servant à racheter les fautes commises, ou même à commettre, et que l'on n'a qu'à y puiser pour acquitter ses dettes, ce que, malgré toutes les protestations de la conscience morale, on ne sera sans doute que trop pressé de faire, tandis qu'on peut s'abstenir de prendre le ferme propos de se bien conduire jusqu'à ce qu'on se soit, au moins, remise à flot, on ne peut guère alors concevoir d'autres conséquences de cette foi. Et dans le cas où cette croyance elle-même nous serait en outre représentée comme ayant une force si particulière et une telle influence mystique ou magique que tout en ne devant, autant que nous sachions, être regardée que comme historique, elle soit cependant capable, dès qu'on s'y attache et qu'on a les sentiments qu'elle comporte, d'améliorer foncièrement tout l'homme, de faire de lui un homme nouveau. Et il faudrait que cette croyance fût considérée elle-même comme un don qui nous vient immédiatement du ciel, avec et par la croyance historique. Et tout se ramène dès lors en définitive, même la constitution morale de l'homme, un décret arbitraire de Dieu. Ouverture de guillemets, il a pitié de qui il veut et il endurcit qui il veut. Parole qui, prise à la lettre, est le salto mortale de la raison humaine. Note. Voici l'explication que l'on peut donner de cette parole, c'est-à-dire il a pitié de qui il veut et il endurcit qui il veut. Nul ne saurait dire avec certitude d'où vient que tel homme est mauvais et tel autre bon, tous deux comparativement, alors que bien des fois, la disposition qui les pousse à être ce qu'ils sont semble déjà tenir à leur naissance, et que parfois aussi les contingences de la vie, à quoi personne ne peut rien, influent sur leur différence morale. Personne non plus ne peut dire ce qu'il adviendra de lui-même. Il faut donc laisser là-dessus le jugement à celui qui voit tout. Et c'est cela qui est exprimé par cette parole, comme si le décret divin, avant la naissance des hommes, avait été prononcé sur chacun, lui assignant le rôle qu'il aurait à jouer. Dans l'ordre des phénomènes, pour le créateur de l'univers, surtout quand nous nous en faisons un concept anthropomorphique, prévoir est aussi décider d'avance. mais dans l'ordre des choses suprasensibles, où règnent les lois de la liberté et où le temps n'existe pas, prévoir n'est plus que savoir tout d'avance. Sans qu'on puisse expliquer pourquoi l'un se conduit ainsi, l'autre suivant des principes contraires, ni concilier cette prescience avec la liberté des volontés humaines. Fin de la note, retour au texte. C'est donc une conséquence nécessaire de nos dispositions physiques et aussi des dispositions morales qui sont en nous et qui servent à la fois de base et d'interprète à toute religion, que la religion se dégage enfin de tous ses principes empiriques de détermination, de tous ses statuts à base historique, groupant les hommes provisoirement au moyen d'une foi d'Église, en vue des développements du bien, et que la religion pure de la raison arrive seule à dominer ainsi toutes les autres religions, ouverture de guillemets, afin que Dieu soit tout dans tout. Fermeture de guillemets. Les enveloppes dans lesquelles l'embryon à préforme humaine doivent être écartées pour qu'il puisse venir au jour. Les lisières des traditions sacrées, les statuts et les observances qui les complètent, choses qui ont rendu des services en leur temps, deviennent petit à petit inutiles et finissent par être des chaînes, quand l'homme n'est plus un enfant. Aussi longtemps, ouverture de guillemets, qu'il a été enfant, l'homme a été prudent comme un enfant, fermeture de guillemets, et a su rattacher à des dogmes qui lui avaient été imposés sans son aveu, une science et même une philosophie mise au service de l'Église. Ouverture de guillemets, mais devenu homme, il se dépouille de ce qui tient à l'enfance, fermeture de guillemets. La différence humiliante entre les laïcs et nectaires disparaît enfin, et l'égalité naît de la véritable liberté, mais sans anarchie cependant, car chacun obéit à la loi non statutaire qu'il se trace, il est vrai, lui-même, mais qu'il doit aussi regarder comme la volonté du souverain du monde que lui révèle sa raison, et qui groupe, invisiblement, sous un gouvernement commun, tous les hommes dans un État, dont l'Église visible était auparavant la maigre représentation et l'esquisse préparatoire. Cette transformation, il ne faut point l'attendre d'une révolution extérieure, pleine de tumulte et de violence, et qui est grandement soumise au hasard des circonstances dans son action. Les défauts qui se trouveraient dans l'ordre nouveau établi par elle seraient, quoiqu'à regret, maintenus des siècles durant, parce qu'on ne pourrait plus y porter remède, ou du moins parce qu'il serait impossible de les modifier autrement que par une nouvelle révolution, toujours dangereuse. Dans le principe de la religion rationnelle pure, révélation divine, quoique non empirique, faite continuellement à tous les hommes, doit se trouver le fondement de ce passage à un nouvel ordre de choses. Et ce progrès, une fois résolu après mûre réflexion, est réalisé peu à peu par des réformes progressives, dans la mesure où il doit être une œuvre humaine. Car pour ce qui est des révolutions, qui peuvent le rendre plus brusque, elles sont abandonnées à la Providence. Et l'on ne saurait s'en nuire à la liberté, les amener suivant un plan. Mais on peut dire avec raison, ouverture de guillemets, que le règne de Dieu est arrivé sur nous, fermeture de guillemets, alors même que le principe du passage progressif de la foi de l'Église à la religion rationnelle universelle et par suite à un état moral, divin, sur la terre, se borne à avoir pris racine publiquement partout, ou même en un endroit, quoique l'avènement réel d'un pareil règne se trouve encore indéfiniment éloigné de nous. Car, puisque ce principe contient le fondement d'un progrès continu vers cette perfection en lui, comme dans un germe vivant qui se développe et se multiplie dans la suite par la semence, se trouve contenu de manière invisible, le tout qui doit un jour éclairer et régir le monde. Quant au vrai et au bien, que tout homme, en vertu de sa disposition native, tend à connaître et à aimer, il ne manque pas, devenu public, de se communiquer universellement, grâce à l'affinité naturelle qu'ils ont avec la disposition morale de tous les êtres raisonnables. Les entraves que des causes politico-civiles peuvent mettre de temps à autre à leur propagation, au lieu de les gêner, servent plutôt à rendre plus intime l'union des âmes en vue du bien, qui, une fois saisie par l'âme, reste toujours l'objet de ses pensées. Note. On peut conserver à la foi d'Église, sans l'exclure ni la combattre, son influence utile en tant que véhicule, tout en la dépouillant, comme trop entichée du devoir cultuel, de toute influence sur le concept de la religion véritable, qui est la religion morale, et de cette manière, malgré la diversité des confessions statutaires, établir un rapprochement entre tous leurs adeptes au moyen des principes de la religion rationnelle unique, dans le sens de laquelle les docteurs ont à expliquer tous les dogmes et toutes les observances de ces religions différentes, jusqu'à ce que l'on puisse, avec le temps, quand aura triomphé l'Aufklärung véritable, c'est-à-dire la légalité sortant de la liberté morale, substituer d'un accord unanime aux formes dégradantes de croyances coercitives une forme ecclésiastique adaptée à la dignité d'une religion morale, c'est-à-dire la forme d'une croyance libre. Concilier l'unité de foi ecclésiastique avec la liberté en matière de foi, c'est un problème que nous porte continuellement à résoudre l'idée de l'unité objective de la religion rationnelle par l'intérêt moral qu'elle nous inspire. Mais nous n'avons que peu d'espoir de réaliser cette conciliation dans une Église visible, si nous interrogeons là-dessus la nature humaine. C'est là une idée de la raison qui nous est impossible de représenter dans une intuition pleinement adéquate, mais qui est cependant, comme principe régulateur pratique, doué de réalité objective, pour influer sur cette fin, de concert avec l'unité de la religion rationnelle pure. Il en est ainsi comme de l'idée politique d'un droit d'État, qui devrait s'accorder aussi avec le droit des peuples universels et souverains. L'expérience ici nous refuse toute espérance. En vertu d'un penchant qui semble avoir été donné, peut-être intentionnellement, au genre humain, chacun des États pris à part, quand la fortune lui sourit, tend à subjuguer tous les autres et à fonder la monarchie universelle. Mais arrivé à une certaine grandeur, il se démembre de lui-même en plus petits états. Ainsi, chaque Église existante émet la fière prétention de devenir universelle. Mais une fois qu'elle s'est propagée et est devenue dominante, bientôt apparaît un principe de dissolution et de division en sectes diverses. La fusion des états, trop hâtive et donc pernicieuse, parce qu'elle aurait lieu avant que les hommes soient devenus moralement meilleurs, s'il nous est permis d'admettre en ce point une intention de la Providence, est surtout empêchée par deux puissantes causes, la multiplicité des langues et la différence des religions. Fin de la note, retour au texte. Tel est donc le travail inaperçu de nous, mais toujours progressif, que fait le bon principe pour se constituer dans le genre humain. République soumise aux lois de la vertu, une puissance et un empire attestant sa victoire sur le mal et assurant au monde, sous sa domination, une paix éternelle.